sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. Sur le pont des arts du mois de septembre vous propose cette fois de retrouver le peintre Vladimir Velikovic, né en Yougoslavie à Belgrade en 1935. Diplômé de l'école d'architecture de Belgrade en 1960, il s'oriente vers la peinture et le dessin. Francophile, Velikovic quitte son pays pour la France, où il obtient, 5 ans plus tard, le prix de la Biennale de Paris et où il décide évidemment de s'installer. Il est aujourd'hui internationalement reconnu comme l'un des artistes les plus importants du mouvement de la figuration. Le peintre Dado, yougoslave, est arrivé en France en 1956. Il s'est très vite fait remarquer par Jean Dubuffet qu'il a présenté à Daniel Cordier et celui-ci est devenu son principal marchand. Daniel Cordier a participé à la renommée internationale de Dado, monténégrin d'origine. Ce peintre, dessinateur, graveur, sculpteur est mort à Pontoise le 27 novembre 2010. Retrouvons Vladimir Velikovic dans son atelier d'Arcueil, dont les dessins sont réunis avec ceux de Dado pour une exposition temporaire à la Galerie Sélème à Paris, à voir du 15 septembre au 30 octobre 2011. Velikovic, Dado, dessin des années 60 aux années 80. Vladimir Velikovic, bonjour, merci de nous accueillir dans votre atelier pour nous parler d'une exposition de dessins à la galerie Samantha Selem, une série de dessins des années 60 et 80 qui sont mis en parallèle avec les dessins d'un autre artiste, yougoslave comme vous, Dado. Et on a sous les yeux deux écritures, je ne sais pas comment les qualifier, deux écritures différentes. Qu'est-ce qui vous réunit tous les deux d'abord?
L'amour et la passion du dessin, d'abord. À part nos origines qui sont de la même région, pas tout à fait au même endroit, mais de la même région. Moi, je suis serbe et yougoslave. Dado, il est monténégrin et probablement yougoslave parce que je ne sais pas comment il se sent. Il se sentait parce qu'il vient de partir, de disparaître malheureusement. Et je pense que toute cette génération qui est la nôtre, on a une différence d'âge assez négligeable, était très 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 passionnée par le dessin. Ce milieu-là des gens qui étudiaient la peinture à l'époque, dans les années 50, 60, ont eu un réel amour, un besoin de dessiner. Et puis, il y en a plusieurs qui ont probablement continuer à exercer ce métier de dessin. Il y a presque, on pourrait dire qu'il y a une école belgradoise du dessin. Et Dado et moi et quelques autres, on a appartenu à un groupe de jeunes de l'époque qui s'appelait Mediala et qui était un groupe qui a, à part le dessin, fait la peinture et une peinture, chacun à sa manière, était doté de plein de références classiques, en transposant ces références dans notre propre langage. C'est-à-dire, de ce nom qui s'appelle Mediala, ça dit assez clairement qu'on était sur la ligne médiane entre le passé et le présent.
Quels sont les autres noms des peintres que vous voudriez nous faire connaître ?
Bah écoutez, il y en a quelques-uns qui peuvent être connus à Paris. Il y a Liuba, qui vit toujours à Paris. Mais les autres, malheureusement, sont quand même un peu coupés. Ils ont été coupés de cette présence à l'étranger. Ils n'ont pas fait des carrières internationales. Il y a un peintre décédé aussi, qui est Leonid Sheikha, qui était un peu l'initiateur de ce mouvement, si on peut dire, mouvement avec un M minuscule. mais qui était aussi philosophe, théoricien. Il a même écrit un tractat de la peinture. Et c'était très intéressant parce que à l'époque, dans ces années 60, il fallait savoir qu'on s'est débarrassé d'un régime plus ou moins totalitaire dans la culture, dans les arts, c'est-à-dire la rupture de Tito avec Staline a ouvert une voie qui était de la libre expression, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Il faut dire qu'on n'était pas très, très, très passionné par le réalisme socialiste. C'était imposé et puis ça a duré très, très peu de temps. Et puis la manière de cette voie qui s'est ouverte à ce groupe-là, qui a été assez critiqué parce que il y avait un léger voile de pessimisme dans le concept de tous ces artistes qui étaient tous des figuratifs. Et puis il y a un autre groupe de même âge, de la même génération, qui était des abstraits avec un intérêt très 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 tapiessienne de la matière et tout ça. C'est-à-dire que c'était deux voies qui étaient empruntées par cette même génération et qui a créé à Belgrade notamment une très très forte dynamique, pas de confrontation, mais de présence de ces deux tendances. Et ça a été assez intéressant et passionnant pour nous tous parce que tout d'un coup, il y avait une voie ouverte à l'expression, à la liberté de l'expression, de parole. Et c'était quand même une différence qui a fait quelque chose de plus excitant, plus intéressant par rapport à d'autres pays qu'on appelle des pays de l'Est, les pays de derrière le rideau de fer et tout ça. C'est-à-dire la Yougoslavie s'est débarrassée assez rapidement de toutes ces contraintes. Et je dois dire qu'elle était la première à rentrer dans l'Europe, dans l'Union européenne. Maintenant, on est les derniers parce qu'on a fait ce qu'on a fait et la Yougoslavie, malheureusement, n'existe plus.
À vos yeux, il n'y a pas eu d'émergence d'une école similaire comme ça dans les pays de l'Est sous le régime communiste en dehors de cette école yougoslave dont vous parlez ?
Écoutez, mes connaissances sont relativement pauvres, mes informations presque aucune. Je ne connais pas les mouvements de ce genre dans d'autres pays. C'est-à-dire les autres pays de ce qu'on appelle de l'Est, là, ils sont restés jusqu'à la chute de mur de Berlin, un peu, avec toutes ces contraintes. Bah, il y avait des gens qui prenaient les libertés, qui prenaient les voies différentes, pas forcément esclaves de cette fameuse tendance de réalisme socialiste, mais je ne suis pas suffisamment informé pour vous dire est-ce qu'il y a. Il y a probablement des gens qui ont quand même sont sortis de ce créneau-là et qui ont créé des choses, mais l'information était assez, probablement pour ce genre de raisons, l'information dépassait rarement les frontières, c'est-à-dire dans les expositions internationales, on n'avait pas une image, une information pourrait tenir compte de l'existence de ce genre de mouvement, des individus. Bien sûr, il y en avait, mais ça s'est libéré, je pense, au moment de la chute du mur.
Comment est-ce qu'on peut expliquer l'émergence de cette école de peinture au niveau international ? C'est l'histoire de votre départ de Yougoslavie. Qu'est-ce qui a fait que, justement, vous avez pu poursuivre ce chemin et vous révéler aussi dans cet exil ? Enfin, je ne sais pas comment, si vous qualifieriez ça d'exil.
Moi, je n'aime pas le mot. Bon, je suis parti parce que j'avais envie de partir. C'est, comme je dis, je ne suis pas parti pour partir, je suis parti pour arriver. Je ne sais pas à quel point je suis arrivé, mais je suis toujours là, je suis toujours debout, je suis toujours en activité. Pour nous, de cette région-là, Paris, la France, était toujours une destination, surtout culturelle, et puis d'autres voies dans les générations précédentes étaient que les jeunes serbes, surtout, étudiaient en France. Il y a toute une génération des médecins, des ingénieurs qui ont fait les études en France. Et puis, il y a cette amitié qui s'est créée, c'est surtout à partir de la Première Guerre mondiale où les Français et les Serbes combattaient ensemble. Et là, vous avez à Belgrade un monument gigantesque dans le jardin central, qui est très très beau, qui est un monument à la France, et qui est une sorte de symbole parce que, par exemple, ma famille, mes grands-parents et mes parents étaient parfaitement francophones. Mon grand-père étudiait en France, mon père a fait des études aussi, voyageait beaucoup. Et c'était la France qui était comme une sorte de destination unique pour quelqu'un qui voulait quand même tenter sa chance ailleurs. Et moi, je ne suis pas parti ni pour des raisons politiques, ni pour des raisons économiques. Je n'ai pas cherché du travail, je n'ai pas fui un régime qui m'a quand même permis de parler de ce que j'avais envie de dire. C'est-à-dire la peinture avait ses racines déjà dans les années 50-60. Ça n'a pas changé pour autant au niveau du contenu, ça a changé au niveau de la forme, de la structure. Et puis, il y avait un moment clé dans ma vie. C'était une sorte de participation dans une biennale qui était la Biennale de Paris, qui existait à l'époque, qui était une biennale des jeunes.
C'est elle qui vous a révélé?
C'est elle qui m'a révélé, mais j'ai déjà eu quelques contacts parce que j'ai tout de suite compris que le territoire yougoslave m'est un peu étroit. Et j'ai fait ce qu'il y avait à faire et j'ai voulu sortir, j'ai voulu trouver d'autres occasions pour montrer ce que je fais. Bon, la Biennale de Paris, c'était un détail important dans ma vie, dans ma carrière, si on peut dire. J'ai eu le prix qui était une bourse et puis finalement, je suis venu à Paris pour 6 mois et je suis resté, voilà, maintenant 50 ans presque.
À la Galerie Samantha Selem, on n'a pas de dessins là qui sont exposés de cette première période. Ça commence avec les années 70 en fait.
Non, mais il faut savoir que la décision de faire cette exposition, elle est basée sur ce que Samantha Selem avait dans sa collection. C'est-à-dire le hasard a voulu qu'elle collectionnait Dado, qu'elle collectionnait moi aussi, et les dessins qu'elle a eu l'occasion d'acquérir sont des dessins qui, bizarrement, sont tombés dans ce créneau, dans cette période de nos activités entre les années 60 et les années 80. Et c'est tout à fait un hasard que ça collait comme période, et puis on a trouvé ce qu'il fallait dans sa propre collection.
Tous les deux, vous représentez des corps, une figuration du corps qu'on connaît chez vous et chez Dado, presque dans un mouvement inverse, c'est ce qu'explique Isaac Goldberg dans le catalogue. Vous, vous êtes plutôt dans l'expansion quand on regarde vos dessins, et Dado, on a l'impression d'un mouvement figé, fragmenté. Vous aviez conscience quand vous êtes connu à Paris aussi, hein. Est-ce que vous parliez de ces différences déjà ?
Vous savez, je connais Dado depuis qu'on était étudiant, moi en architecture et lui à l'Académie, à l'École des Beaux-Arts de Belgrade. Lui, il est parti relativement tôt, il est arrivé à Paris quelques années plus tôt. Je suis venu m'installer à partir de 66 et on s'est rarement vu, c'est-à-dire on s'est croisé, nos études étaient différentes, mais avec ce groupe-là qui s'est constitué, on avait quelques rencontres. Je ne peux pas dire que je l'ai connu. C'est-à-dire, on se croisait, on se connaissait sans se connaître, en fait. Parce que, bon, le fait qu'il habitait en dehors de Paris, il ne venait pas souvent. Je l'ai vu 2 ou 3 fois chez lui, à son moulin, où il travaillait, où il vivait. Mais je ne peux pas dire que je connais Dado. C'est-à-dire, je pense que s'il était là, il pourrait aussi faire la réponse me concernant. C'est-à-dire, je suivais son travail. Il faut que je dise que j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Déjà, au départ, c'était quelqu'un qui avait une écriture, un monde, un univers qui est très, 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 très spécial et qui était plutôt proche des rêves, habité par ces monstres, par ces espaces qui sont des espaces imaginaires. C'est une peinture, c'est un dessin d'une grande richesse et une grande force dans le sens que l'imaginaire habiter ce travail-là avec, je pense, une énorme, énorme force, une force qui était maîtrisée avec ce métier qu'il avait, autant en dessin qu'en peinture. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même un grand, grand, grand dessinateur et un grand peintre.
Pour les auditeurs, je ne sais pas si le rapprochement est juste, mais pour donner une idée, on pourrait dire qu'il est dans la tradition d'un Jérôme Bosch, à des siècles d'écart.
Oui, il y a une légère présence surréaliste dans le travail de Dado, ce qui le différencie très très fortement de moi. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est proche d'un certain réel, même réel entre guillemets, avec point d'interrogation et tout ça, mais on est différent dans ce sens-là, et ce que vous avez cité comme réflexion d'Itza Goldberg, c'est juste, je pense, c'est un travail qui est différent, mais ce qui nous lie quelque part, c'est cet amour de trait. Le trait et ce travail de, je ne veux pas dire de savoir-faire, mais de dessiner à la plume surtout. On connaît, je ne veux pas me vanter, mais dessiner à la plume, c'est quelque chose qui est très très différent de dessiner au crayon, au fusain, choses comme ça. C'est-à-dire, je diminue pas la manière dont les gens qui pratiquent ce genre de technique et qui a ses difficultés et ses avantages, mais je pense que cette manière d'utiliser la plume, le trait, ce souci de parler métier, je pense que sans métier, il n'y a pas d'art, ce qui est tout à fait contesté aujourd'hui. Ce qu'on dit, moins on a du métier, plus on est intéressant comme artiste, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ça, probablement, mon concept de l'art et d'un savoir-faire qu'il faut quand même exprimer, il faut le mettre en évidence. Et c'est, je vous dis, c'est un amour de figuratif. On est figuratifs tous les deux. On s'occupe du corps, on s'occupe de l'espace dans le corps, dans lequel le corps évolue. Son corps, à lui, est différent de mon corps à moi, mais ce sont des représentations, autant en dessin qu'en peinture, qu'on peut lire, qu'on peut commenter. On sait de quoi on parle maintenant, à chacun de s'approcher, de dialoguer avec, s'il y a pas la possibilité de dialogue. Souvent, le dialogue ne s'établit pas, mais le dialogue est quand même nécessaire pour l'existence d'une œuvre.
Dans les dessins qui sont présentés à la galerie Samantha Selem pour cette exposition, on a sous les yeux des corps déchiquetés qui chutent, qui semblent, on est dans un univers sans repère, sans issue. Et puis, il y a aussi des corps féminins qui sont exposés. Il y a à la fois beaucoup de violence, et puis il y a des dessins qui ne représentent pas cet éclatement du corps au sens guerrier, j'allais dire, mais où le corps féminin, en tout cas, est éclaté lui aussi. Quelle connotation peut-on y voir ?
C'est le pur hasard qu'à l'intérieur de la collection de la galerie, il y a ce genre de dessin qui correspondent à une époque. Bon, les corps féminins, c'est quelque chose qui, pour moi, personnellement, appartient au passé. J'en ai fait certains dessins, certaines peintures dans cette époque-là, mais en tout cas, pour ce qui est de l'érotisme, d'éclatement, ça fait partie de ce que je fais, de mon travail, de la manière dont je dessine. Bon, tout acte créatif est, on peut le dire, un acte érotique, parce que bon, il y a une sorte de montée en puissance, de montée en force, de montée en agressivité. L'acte créateur, c'est un acte agressif. On agresse avec l'outil qu'on utilise, la surface qui est devant vous, soit-elle le papier, la toile, même quand il s'agit de la sculpture. C'est-à-dire que c'est un combat, c'est un règlement de compte avec cet adversaire qui se présente comme une feuille blanche, comme une feuille vierge, comme une toile vierge, comme une masse quand il s'agit de la sculpture. Et puis, on a une sorte de violence qu'on exerce sur cette surface avec nos moyens. Chacun a ses moyens, ses outils, Bon, notamment concernant cette exposition, les outils de Dado et de moi, c'est surtout la plume. Dado est aussi assez proche d'un travail au crayon.
La violence interne, c'est la pulsion de vie.
La vie est une violence, on la sent chaque instant. C'est sans violence, la vie, je pense qu'elle n'existe pas. Sans une tension, sans une sorte d'agressivité qui est la nôtre, qui nous entoure. Bon, il faut voir comment ça se passe au niveau de la communication, soit-elle par rapport aux humains, par rapport à ce qu'on fait. Mais en tout cas, je pense que la violence est quelque chose qui rime avec l'existence. Je ne veux pas dire que la violence, que le mot utilisé est trop fort pour quand même définir tout ça. Mais à notre manière, au niveau créatif, la violence est quelque chose d'indispensable. Et je pense que ça rime avec ce que j'ai dit, avec la créativité, avec la création. Je pense que surtout, c'était une bonne idée comme une sorte de salut à un artiste, un grand artiste, un grand dessinateur, un grand peintre, aussi sculpteur. Et c'était une manière de marquer cette disparition prématurée de Dado. Et j'ai une énorme estime pour ce qu'il a fait à tous les niveaux, au dessin, à la peinture, à la sculpture. Je pense que c'est un très, très, très grand artiste qu'il faut encore et encore découvrir avec probablement des manifestations qui vont suivre. Une petite manifestation de cet hommage à Dado est faite par la galerie Samantha Selem, mais je pense qu'il mérite quelque chose de très, très, très important au niveau muséal, au niveau international, parce que je pense que ces choses-là n'ont pas encore été faites et il les mérite largement.
Vladimir Velikovic, est-ce que vous pourriez nous décrire ou nous parler d'un dessin de Dado qui est une encre et aquarelle sur papier de 1974, qui est en couleur aussi?
Oui, ça c'est un mélange de techniques. Dado procédait souvent à ce genre de mixité en utilisant différentes matières, mélangeant les crayons, les encres, les aquarelles, les gouaches, les collages. C'est-à-dire que c'était une œuvre tellement riche dans tous les sens et il n'hésitait pas à introduire d'autres matières qui sont tout à fait complémentaires avec le dessin qui est le dessin à la plume à la base. C'est un dessin d'une extrême précision, mais aussi avec une note très riche, picturale, qui était appliquée par la matière de l'aquarelle. C'est un petit monstre avec une grosse tête, avec un tout petit pied, et il est tout à fait représentatif de ce que Dado a fait dans sa vie.
Vous savez ce que Dado appréciait chez vous?
J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Peut-être certains gens qui le côtoyaient lui ont posé la question. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais moi, je dis fort et souvent que mon estime pour ce qu'il a fait est sans limite.
Merci Vladimir Velikovic.
Merci à vous.
D'autres académiciens partagent avec Velikovic cette passion du dessin. Le graveur Louis-René Berge présente actuellement une exposition de gravures au Burin à Bordeaux, aux 3 rue Mably, dans la belle salle capitulaire. Pour lui, dit-il, Bordeaux, c'est ma ville. Né à Paris, il y a 84 ans, il a été élevé par sa grand-mère bordelaise sous l'occupation. Une 50aine de ses gravures sont exposées du 21 septembre jusqu'au 5 octobre et vous pourrez vous y rendre, y compris le dimanche. La gravure à Bordeaux vit d'aller-retour avec Paris. C'est le cas depuis 4 siècles, depuis Montaigne qui recourt au graveur flamand Thomas Deleu pour faire son portrait qui accompagna la publication des célèbres essais. Bordeaux, du côté de la gravure et plus près de nous, a vu aussi naître au XXe siècle deux burinistes, Louis-René Berge en 1929 et Molitz en 1941. Louis-René Berge est devenu membre de la section de gravure à l'Académie des Beaux-Arts et il revient à Bordeaux pour présenter dans cette salle un panorama de toute sa production. Ces gravures montrent des arbres, des chaises, des gens qui attendent, qui marchent, qui manifestent, des ombres, des planches, des grilles. Beaucoup d'éléments, mais le plus souvent tirés du réel, de notre histoire collective ou bien de son histoire intime. La particularité de son burin, de son trait, que certains décrivent comme une trame arachnéenne, consiste en traits parallèles, serrés et croisés. Écoutons-le. Louis-René Berge, membre de l'Académie des Beaux-Arts, présente une exposition de ses gravures au burin à Bordeaux, à la salle capitulaire 3 rue Mably, du 21 septembre au 5 octobre. C'est la deuxième fois cette année, après la Fondation Taylor, que le public a l'occasion de voir ses œuvres en grand nombre. Louis-René Berge, bonjour.
Bonjour.
Quelles œuvres avez-vous sélectionnées pour cette exposition à Bordeaux ?
Eh bien, en fait, j'ai trois formats de gravures qui correspondent à ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que sur les grands formats, je dis quelque chose, sur des petits formats, autre chose, et moyens, pareil. Ce qui a, c'est que aussi, je m'exprime de deux manières, soit des traits très parallèles, qui est un peu la caractéristique de mon travail, et avec des traits ondulés, alors que le burin a tendance... Non, il n'a pas tendance, il va droit. Et ça donne tout de même un espace un peu particulier. Et les séries de petites gravures, elles sont contre-taillées, c'est-à-dire que les traits sont croisés, et sont aussi ondulées, c'est-à-dire que je croise en ondulant, ce qui donne un velouté à la gravure au burin, parce que le burin, normalement, c'est assez sec, c'est dur, alors que là, ça donne un moelleux. Voilà.
Ce sont des œuvres récentes ?
Il y a de tout. Ma dernière œuvre, c'est celle qui est l'affiche, qui est la carte d'invitation. C'est mon dernier burin.
Ça s'appelle L'Envolée.
Ça s'appelle L'Envolée. C'est une gravure où on peut voir ce qu'on veut là-dedans. Moi, j'y vois tout de même une envolée vers une menace, vers quelque chose d'un peu inquiétant. Et enfin, nous sommes dans des temps un peu inquiétants, il faut bien le dire. Je crois que cette gravure, enfin, tout ça se fait plus ou moins consciemment. Hein. Bon, c'est après, on dit, tiens, moi, j'ai fait ça, pourquoi pas ? Bon, puis après, bon, puis chacun voit ce qu'il a envie de voir. Mais pour moi, c'est une gravure qui est une envolée un petit peu méchante tout de même, vers cette incertitude.
Une envolée vers l'inconnu peut-être.
Et un inconnu inquiétant.
Et on voit bien dans la partie inférieure de la gravure, justement, les traits ondulés dont
vous
parliez.
Voilà, c'est ça, qui donne ce fameux velouté.
Propre à votre trait. Il y a Gabriel de Bruyne de l'Académie française qui dit de votre œuvre, c'est que la gravure pour Berge est une écriture dans une langue plus concise et plus mordante que celle que véhiculent nos plumes. Pour qui regarde son œuvre avec un peu de recul, il semble qu'il n'ait fait que poser délicatement ses empreintes digitales sur l'épiderme douloureux du temps. Sacré compliment.
Magnifique.
Magnifique. Toutes les gravures, donc l'exposition est publique.
L'exposition est publique, elle est ouverte, comme c'est dit sur l'invitation, de 1h30 jusqu'à 7h le soir. C'est-à-dire que je vais être présent. Ça va être un peu long.
Donc, en
parce
plus,
que c'est moi qui garde.
Voilà.
C'est moi qui garde. La mairie met à ma disposition ce magnifique local.
La belle salle capitulaire
belle salle
de Bordeaux.
Magnifique. Mais je garde pendant 15 jours.
Alors, les visiteurs auront la chance de voir l'artiste.
Oui, ben c'est une chance, mais enfin, ils verront en tout cas.
Voilà. On vous remercie beaucoup, Monsieur Berge, d'être venu nous dire ces quelques mots sur le Pont des Arts, pour nous présenter cette exposition, à laquelle on consacrera une autre et plus longue émission.
Je vous remercie infiniment.
En gravure, signalons l'exposition d'Éric Desmazières du 24 septembre au 28 novembre, une exposition au musée d'art et d'archéologie de Guéret dans la Creuse. Les auditeurs de Canal Académie connaissent bien Éric Desmazières, qui a choisi de faire de la gravure son métier depuis 1972, à partir du moment où il a été d'ailleurs encouragé par le graveur Philippe Molitz, que nous venons d'évoquer précédemment à propos de Bordeaux. Dans le cadre des sixièmes rencontres de Chaminadour, le musée donc de Guéret accueillera une exposition dédiée à l'artiste Éric Desmazières. L'invité des rencontres de Chaminadour est cette année l'écrivain Olivier Rollin, qui a lui-même invité le dessinateur et graveur Éric Desmazières. Au total, Le public peut voir un peu plus d'une cinquantaine d'œuvres, des livres d'artistes, des cuivres, des dessins à la mine de plomb, à l'encre de Chine et des eaux-fortes. Le graveur et l'écrivain se connaissent puisqu'Éric Desmazières a réalisé un premier livre d'artiste en 2005, une invitation au voyage à la demande de la Bibliothèque nationale de France pour célébrer la restauration et l'installation des globes de Coronelli. Il prépare avec Olivier Rollin en ce moment un second ouvrage, Parvula, recueil de poèmes en prose sur des petites choses, les riens du monde animalier et végétal et minéral, un galet, une pomme de terre germée, un artichaut. Ces deux ouvrages sont le point de départ de l'exposition. Toujours dans l'actualité de l'Académie des Beaux-Arts, en sculpture, Claude Abeille présente trois nouvelles sculptures avec le groupe 109 à la Cité des Arts du 22 septembre au 9 octobre. Il exposera également une dizaine de sculptures à la Maison des Arts de Châtillon du 26 septembre au 27 décembre avec d'autres sculpteurs, Agueda Lozano et Paul de Pignol, et également à leur côté les sculptures de l'académicien disparu en 2008 Albert Frérot, pionnier de la sculpture en inox. Il s'agit d'une exposition de Lydia Arambourg, historienne et critique d'art. L'académicienne Brigitte Terzieff a toujours une pièce exposée à l'exposition du Musée des années 30 à Boulogne-Billancourt jusqu'au 2 octobre, une exposition exceptionnelle consacrée à la sculpture et aux femmes sculpteurs. Vous pourrez également voir au Musée Cernouchi du 9 septembre au 31 décembre des œuvres de Shu Tetchun qui participent à l'exposition « Artistes chinois à Paris 1920-1958 ». Au même moment, disons que du 8 octobre au 8 décembre, mais loin, à Hong Kong, une exposition personnelle est consacrée à ce peintre qui a pour titre « Peinture et calligraphie de Shu Tetchun » au Fist Project à Hong Kong. William Christie, du côté de la musique, dirigera le 26 et le 28 octobre à l'Opéra de Luxembourg, la Didone de Francesco Cavalli. Et du côté du cinéma, pour terminer, le Museum of Modern Art, le MoMA de New York, organise une grande rétrospective dédiée à Roman Polanski, une exposition qui retrace toutes les œuvres du cinéaste de ses premiers films, qu'il a réalisés en tant qu'étudiant, à sa dernière œuvre, Carnage. Sur le Pont des Arts, vous donne rendez-vous le mois prochain.